Les marchandes de sable, malices et maléfices, conte de fantômes de Jacques Cassabois. Geneviève et le fantôme de la comtesse. Les restes d'un donjon, une cour obstruée par les éboulis, des murs d'enceinte recouverts par la mousse, des terres reprises par le bois avec, ici et là, des clairières envahies par les ronces, voilà tout ce qui subsiste de la gloire des puissants comtes de Passavant, des ruines, et nourrissant ces ruines, des mystères. Celui-ci, notamment le plus troublant, qui décrit la fin de la dynastie et rapporte la mort de Werfer, le dernier comte tué par un sanglier, châtié, prétend-on, pour les persécutions infligées à Décelé, un ermite. Puis le décès de trois de ses fils, terrassé par un mal foudroyant, et enfin la disparition de sa veuve, Berthilde, emportée par la folie. La comtesse avait voulu se venger du destin en accablant ses paysans de taxes et avait amassé pour son dernier enfant un trésor dont ni elle ni lui ne profitèrent jamais. Quand la violence et la haine ont imprégné une terre, il en reste une souffrance. Il faut alors laver les lieux et d'âpres combats sont parfois nécessaires, âme contre âme, clarté contre ténèbres. Les ruines de Passavant étaient donc hantées par leur passé. Des silhouettes y flottaient la nuit, à peine visibles, mêlée à l'obscurité. Ceux qui avaient eu le hasard de les rencontrer disaient qu'elles semblaient la proie d'un désespoir épouvantable. En marge de ces apparitions, un autre phénomène se produisait, encore plus saisissant, mais une seule fois par siècle. Le fantôme de la comtesse revenait errer au pied des remparts et se lamentait. Elle recherchait son magot, désespérément. On la voyait depuis les villages voisins et lorsqu'elle quittait son domaine, elle montait au donjon, sautait dans le vide et se perdait dans l'invisible jusqu'au siècle suivant. Pourquoi Geneviève, qui connaissait les lieux et leur sinistre réputation, s'y laissa-t-elle attirer ? Elle n'était pourtant pas une aventurière. Elle gardait les chèvres et les moutons. « C'est comme si quelqu'un m'avait appelée », répondit-elle quand on lui posa la question. Un jour, en effet, accompagnant ses bêtes de pâture en buisson, elle entra malgré elle dans le vieux domaine des contes. Quand elle vit que le soir tombait et qu'il faisait déjà sombre, elle voulut rassembler ses bêtes et lança le signal que lancent toutes les pâtres. « Allez, 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 allez !» C'est alors qu'une voix lui répondit. « Reste encore, s'il te plaît, j'aimerais tant te parler. » Et Geneviève vit se détacher devant elle une silhouette de femme élégante, toute blanche, vêtue comme au temps des châteaux. « N'aie pas peur, lui dit-elle, ne t'inquiète pas pour ton troupeau, il va continuer à paître. »« La comtesse, murmura Geneviève en reculant d'un pas. « Oui, c'est moi, Berthilde, tu me connais ? Moi aussi je sais qui tu es. Je te regarde aller et venir, je t'observe. J'espère que tu monteras jusqu'à moi. Aujourd'hui tu l'as fait, j'en suis heureuse, mais j'ai peu de temps. Écoute-moi. » Sa première frayeur passée, Geneviève écouta, intriguée, cette femme qui prétendait l'attendre. Que lui voulait-elle ? J'ai besoin de toi, répondit le fantôme qui lisait dans ses pensées. J'ai amassé ici un trésor que je ne peux reprendre. Je veux te le donner. Le trésor de Passavant ? Demanda Geneviève. Que ferais-je d'un trésor ? Je n'ai pas l'habitude. Je suis bergère. L'habitude se prend vite, tu verras. La comtesse avait toujours vécu sur un grand pied. Elle n'imaginait pas que l'on puisse avoir des goûts modestes et s'en satisfaire. Non, je ne prendrai pas l'habitude, insista la bergère. Tel que je suis, je me suffis. La comtesse sourit. La jeune fille avait le cœur pur. Elle était l'occasion qui lui avait toujours manqué. C'est bon, se ravisa-t-elle. Je vais te dire la vérité. Depuis que j'ai quitté la terre, j'y reviens une fois par siècle. C'est une chance qui m'est donnée d'effacer les souffrances que j'ai causées. Mais pour y parvenir, il faut que je me débarrasse de mon trésor. Trois grands coffres. Je pense tellement à eux qu'ils me retiennent. Je suis leur prisonnière. Aide-moi à m'en libérer. Si tu ne veux pas de ces richesses, partage-les, distribue-les à ceux qui n'ont rien. Sois généreuse à ma place, puisque je n'ai jamais su l'être. Geneviève était indécise. La châtelaine paraissait sincèrement affligée. Mais comment une bergère pouvait-elle secourir une comtesse? Un vivant venir en aide à un esprit? Que faut-il faire? Demanda-t-elle. Prendre possession de mes biens, vendredi soir avant minuit, en arrachant aux trois démons qui les gardent la clé de mes trois coffres. N'aie pas peur, ils ne pourront rien contre toi. Ta pureté leur enlèvera tous leurs moyens. Ils représentent mes pires défauts, l'hypocrisie, la cruauté et l'égoïsme. Tout ce que tu ignores, ils ont dirigé ma vie. Acceptes-tu? Dis, acceptes-tu? Il me suffira de te suivre. Il te suffira de me suivre. Il faut d'abord que j'en parle à ma maman, répondit Geneviève ennuyée. Bien sûr, petite, parle-lui-en, mais pense à moi. Ne m'oublie pas. N'oublie pas tous ceux que tu pourras aider. Et reviens vendredi soir à 11h. Oh, reviens. La comtesse disparut dans la nuit. Quand Geneviève rentra chez elle avec son troupeau, elle raconta à sa mère, qui était folle d'inquiétude, les raisons de son retard. Le problème que sa fille lui posait la dépassait. Elle conseilla d'aller prendre l'avis du curé de la paroisse dès le lendemain matin. Celui-ci prit les choses très au sérieux. Il écouta l'enfant sans l'interrompre et à la fin se prononça avec gravité. « Sauver une âme est une grâce et si pareille tâche t'est proposée, c'est que tu peux t'en acquitter. Accepte-la et aie confiance, je vais prier pour toi. » Le vendredi suivant, Geneviève monta donc, seule dans la nuit, vers les ruines du château. Elle s'y trouva un peu avant 11h. La comtesse, plus pâle que lors de leur première rencontre, l'attendait, une lanterne à la main. « Te voilà !» dit-elle soulagée. « Viens !» Elle se dirigea vers le donjon et d'un geste, elle fit tomber un pan de la muraille. La première marche d'un escalier apparut. Elle s'y engouffra en entraînant Geneviève. 11h sonnait précisément au clocher du village. Alors ? Alors, commença une longue descente dans l'obscurité. Geneviève suivait la comtesse avec précaution, regardant où elle posait les pieds, s'équilibrant d'une main contre le mur. Les pierres étaient glacées. Elle s'enfonçait dans le froid. Au bas des marches, une lourde porte de bois bardée de fer les arrêta. La comtesse l'ouvrit à l'aide d'une clé d'un trousseau qu'elle portait à sa ceinture. Derrière la porte, un deuxième escalier attendait, aussi sombre que le premier, aussi froid où soufflait un vent aigre. La descente reprit, plus vite. Berthilde hâtait le pas. « Ne traîne pas, allons !» La jeune fille qui avait peur de tomber ralentissait malgré elle, et dans le vent qui montait des profondeurs tournoyait des murmures, des plaintes. Elle allait vers un chagrin. Cette volée de marche s'immobilisa comme la précédente devant une deuxième porte que la comtesse ouvrit encore. Le temps s'écoulait. Un troisième escalier attendait. « Vite, pressons !» Et la descente recommença, plus noire, plus froide. L'humidité se mêlait au vent, au gémissement, l'air empesté. Geneviève percevait maintenant avec netteté des cris et des sanglots. Des ombres frôlaient ses cheveux, s'accrochaient à sa robe, ralentissaient son pas. Elle suffoquait, sa poitrine a brûlé et ses jambes raidies lui faisaient mal à chaque marche. Elle se laissa distancer par son guide et la peur de rester seule dans cette obscurité la saisit. Elle s'obligea à accélérer en gémissant. Tout au fond du puits, une dernière porte, la dernière. Quand Geneviève rejoignit la comtesse, celle-ci, de plus en plus fébrile, s'énervait sur son trousseau. Mais la lampe avait baissé, étouffée par les ténèbres, et Geneviève, en la voyant s'éteindre, perdit connaissance. « Malheur !» pesta la comtesse. « Et la gamine me lâche aussi !» Par maladresse, Berthilde brisa son porte-clés et toutes les clés s'éparpillèrent. « Ah, maudit » cria-t-elle, comme si elle répondait à des inconnus dans l'ombre qui triomphaient. Ses coffres attendaient là, tout près, derrière cette porte. Depuis des siècles, ses chances de se libérer n'avaient jamais été aussi fortes, et elle allait échouer. Elle se raisonna, s'agenouilla sur le sol et, tâtonnant avec méthode, parvint à reconstituer son trousseau. Au toucher, elle distingua la forme de la serrure. Au toucher encore, elle trouva la clé qui convenait et l'introduisit. La vieille serrure reconnut la main de sa maîtresse et la porte s'ouvrit aussitôt. Le trésor était là, l'or des siècles. « Petite, c'est à toi. Vite, réveille-toi. » Berthilde souleva Geneviève dans ses bras maigres, lui tapota les joues, la secoua. « Voyons, ne renonce pas. Reviens, s'il te plaît. Aide-moi. » Geneviève ouvrit enfin les yeux et la mémoire lui revint. L'escalier, l'affreux malheur qui pesait sur les lieux. Elle entendit aussi les encouragements du prêtre qui lui avait conseillé d'accepter cette mission. « Sauver une âme, tu peux t'en acquitter. » Alors elle se redressa. « Ayez confiance, madame, » dit-elle pour rassurer la comtesse. Elle franchit la porte sans trembler et vit trois coffres alignés. Assis sur ces coffres, les gardiens. Trois démons hideux qui battaient l'air de leurs griffes et vociféraient, aveuglés par la lumière. En les voyant, Geneviève se souvint des mots de la comtesse. Mes pires défauts, l'hypocrisie, la cruauté et l'égoïsme, ils ont dirigé toute ma vie. Le premier était un lézard géant aux écailles de pierre, le deuxième un aigle à tête de tigre, le dernier un monstre mi-homme mi-lion, chacun serré dans ses pattes une clé. Geneviève commença par le reptile. Il cracha quand il la vit s'approcher et sa crête se hérissa de feu. Mais la bergère ne semblait ni le voir ni l'entendre. Elle avançait, imperturbable, jusqu'au coffre devant lequel elle s'arrêta et le démon, dérouté par cet adversaire, se tassa sur son trésor. « Donne-moi cette clé, » dit-elle en tendant la main. « Donne-moi que rien. Je distribuerai cet or au mien. Je consolerai des chagrins. » Sa voix résonna dans le caveau, avec la fraîcheur d'une cascade et la clé tomba sur le sol. Quant au démon, il fut réduit en cendres, consumé par son propre feu. Sans attendre, elle s'approcha de l'aigle à tête de tigre. Effrayé par la mort de son complice, celui-ci battit des ailes pour intimider son adversaire et jeta sa gueule en avant. Mais rien n'impressionnait Geneviève. Elle poursuivit sa marche jusqu'au devant les deux pattes du fauve qui bavait en couinant. « Donne-moi cette clé, » reprit-elle en tendant la main. « Donne-moi que rien. Je distribuerai cet or au mien. Je consolerai des chagrins. » Sa voix vibrait dans le caveau, espiègle comme les trilles d'un chardonneret. La clé tomba, aussi vite que la précédente, et quand elle toucha le sol, le démon s'écroula en se dévorant les ailes. De son même pas confiant, Geneviève, ses deux trophées en main, partit à la conquête du troisième, propriété de l'être mi-homme mi-lion. Pas un cri de sa part, pas un geste. Contrairement à ses frères, Geneviève ne l'effrayait pas, et quand elle s'apprêta à lui ordonner de lâcher son bien, il éclata de rire. « Ne te laisse pas troubler !» cria la comtesse à Geneviève. « C'est une ruse !» Le démon leva alors son bras d'homme et, un doigt dressé, s'exclama. « Écoute, Berthilde !» Au loin, un bruit venu de la terre des vivants parvint au fond du souterrain, le bruit terrifiant d'une cloche tranquille qui égrenait les heures de la nuit. « Minuit !» hurla la comtesse. « N'attends plus, petite ! Arrache-lui la clé !» Mais le démon, impassible, se mit à compter. « 10, 11, 12, trop tard, Berthilde !» Un éclair grésilla. La foule ébranla le caveau, des murailles s'écroulèrent et les secrets furent à nouveau ensevelis sous la terre. Et sur ce fracas, le triomphe du démon. « Tu en reprends pour 100 ans, Berthilde !» Et sur le rire de la bête, les sanglots déchirés de la pauvre comtesse. À l'aube, la mère de Geneviève, inquiète de l'absence de sa fille, monta vers les ruines, accompagnée du prêtre. Ils y trouvèrent la petite, toute barbouillée de terre, affalée contre le mur du donjon écroulé. Sa robe était en lambeaux, ses bras meurtris, ses genoux et ses mains ensanglantés. En la redressant, ils découvrirent les deux clés qu'elle tenait serrées contre elle. Ils s'empressèrent de la redescendre au village et la couchèrent avec Édredon et Bouillotte, tant elle grelottait. Une fois un peu réchauffée, elle raconta son aventure. Sa descente vers le mal, ses duels contre les démons, sa facilité à vaincre les premiers et pour finir son échec désespérant. « La dernière clé était à ma portée, » disait-elle déçue. « Il s'en est fallu d'un instant. » Elle raconta aussi l'éboulement, sa fuite dans l'escalier qui s'effondrait et la terre où elle craignit d'être ensevelie, puis ses efforts pour ramper vers la nuit fraîche et le ciel étoilé. Quand elle eut tout rapporté, elle s'endormit, exténuée. Elle dormait toujours le lendemain, le surlendemain aussi, et une semaine après, un mois, et tant de jours qu'on ne les comptait plus. Elle s'éveillait parfois, dévisageait ceux qui restaient à son chevet, puis, comme si elle ne les reconnaissait pas dans l'assemblée, la personne qu'elle cherchait sombrait à nouveau dans un sommeil profond et agité. On la sentait tendue, poussée par une quête. Elle murmurait des mots incompréhensibles. « Ayez confiance, madame, ou bien encore, je consolerai des chagrins. » Chacun pensait qu'elle finirait par s'éteindre d'épuisement et le prêtre regrettait amèrement de l'avoir incité à accepter la demande de la comtesse. Un matin pourtant, et ce matin ne peut s'oublier, un an jour pour jour après sa tentative, elle s'éveilla et sortant sa main de sous ses couvertures, elle s'écria « Enfin, je l'ai arraché !» Le visage rayonnant, elle brandissait la troisième clé. Au même instant, un hurlement de bête enragée s'éleva des ruines du château et la cloche de l'église, d'elle-même, se mit à sonner à toute volée. « Sauvée !» murmura Geneviève. « La comtesse est sauvée !» Les témoins de l'événement se signèrent en frémissant et se mirent à prier. Les trois monstres qu'elle avait eus à combattre, la lutte contre le troisième, l'égoïsme, s'étaient montrés la plus ardue. La bataille avait fait rage pendant toute une année. Peu à peu, Geneviève retrouva ses forces et reprit bientôt son travail de bergère. Personne ne put jamais lui faire expliquer de quelle manière elle avait pu tirer la troisième clé de l'obscurité et la ramener à la lumière. De la même façon, quand on essayait de la faire parler des trois coffres, elle détournait la conversation. À cause de sa discrétion, certains aventuriers se mirent dans la tête que le trésor de la comtesse n'était pas loin et entreprirent des fouilles. Nul ne l'a jamais découvert, mais on prétend même que de nos jours, quelques égarés, enfumés par la légende, continuent à le chercher.
See this our town of Halloween.
This is Halloween. This is